Cube Radio.
Politiquement incorrect.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, vous êtes à l'écoute de Politiquement Incorrect, Pierre Nantel au micro. Écoutez, la situation par rapport au coronavirus est bouleversante actuellement. On voit même que ça atteint les marchés boursiers, que partout dans le monde, ça crée une inquiétude. Et loin de moi l'idée là, de vouloir semer la panique, mais j'ai allé vérifier un peu la situation épidémiologique au niveau international. Et j'ai pris les chiffres sur le site de Santé publique en France. Hier, le 24 février, on dénombrait dans le monde 79 000 cas confirmés de COVID-19, dont 2000, à peu près 2107 cas hors de la Chine. Et ces cas-là incluent 2592 décès en Chine, 1 en France, 2 à Hong Kong, 1 au Japon, 1 aux Philippines, 8 en Iran, et ça, c'est l'aspect qui me turlupine le plus, 3 sur le bateau de croisière Diamond Princess et 1 à Taïwan, 7 en Corée du Sud et 2 en Italie. Aujourd'hui, on parle que l'indice de contagiosité, c'est un mot qui existe, ça paraît-il, est estimé entre 1,5 et 3,5. Et si on compare ça à celui de la grippe espagnole en 2019, il était de 2,2 et celui de la grippe saisonnière est de 1. Donc, on est ici à faire à quelque chose qui est quand même contagieux. Et c'est demeure un peu quelque chose d'inquiétant, mais faut effectivement, on entend souvent la comparaison avec la varicelle qui a un taux de contagiosité de 8,5 par rapport à la grippe qui est de 1 et la rougeole qui est à 9. Ici, j'ai remarqué aussi que la Turquie suite au nombre croissant de morts qui sont dus au coronavirus en Iran, a décidé de fermer ses frontières terrestres avec l'Iran et a décidé aussi de restreindre tous les vols qui arrivaient d'Iran. Aujourd'hui, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est de voir que Horacio Neruda, notre médecin en chef dans la situation actuelle, annonçait hier que finalement, on recherche certains passagers sur le vol Istanbul-Montréal du 14 février. Et je vais le citer ici, c'est une maladie essentiellement transmise par gouttelette. La patiente étant peu symptomatique durant le voyage, des questions ont été posées sur sa mobilité à l'intérieur de l'avion, etc. Ça nous porte à croire que si on fait 3 rangées devant et 3 rangées derrière, c'est précautionneux. C'est un drôle de mot qu'il a choisi. J'entends là donc une forme de, écoutez, on est précautionneux, on est prudent. Et je pense que c'est adéquat. L'avenir nous le dira. Et moi, je sais pas, c'est juste moi, mais il me semble que ces démarches-là autour de cet avion arrivé d'Iran sont un peu... C'est un peu léger. Je suis aucunement compétent en la matière, mais je trouve qu'il y a une dichotomie entre le ton général à l'international autour de cette... On parle aujourd'hui dans le journal de pandémie qui menace actuellement. Je me demande, est-ce que ça aurait été très compliqué et pas logique de demander à la compagnie aérienne de contacter tous les passagers qui étaient sur cet avion, sans semer la panique, juste dire quand même qu'il y a certainement plus de possibilités de contact et de contamination que les 3 rangées en avant et en arrière sur l'avion. Je sais bien sûr que un des pires problèmes qu'on peut vivre par rapport à cette situation-là, c'est un état de panique générale. Mais j'ai pas pu m'empêcher de trouver que le docteur Weiss de l'hôpital juif de Montréal d'entendre son scepticisme devant la mesure qui lui apparaissait un petit peu trop limitative. La vérité, dans un avion, puis on le sait tous, un avion transcontinental, on sait bien que l'air est en circuit fermé et que, je comprends, on parle de gouttelettes, mais on parle aussi de contact avec des objets qui perdurent. Et moi, en tout cas, personnellement, ça m'inquiète un peu de voir que cette personne-là a peut-être transmis, on connaît le temps d'incubation de ce microbe-là qui s'avère finalement plus long que 2 semaines, on l'a constaté récemment. Alors aujourd'hui, je me demande si c'était un bon choix. Je pose la question, je me demande juste si ultimement, est-ce que ce serait très complexe de contacter tous les passagers qui étaient sur cet avion-là, juste pour voir Est-ce que vous pourriez-vous donner votre état et l'état de vos déplacements, aviser un peu de prudence devant cette situation-là, la menace à l'international, en tout cas le climat qui s'installe à l'international m'apparaît un peu contrasté avec le choix assez gêné, je trouve, de se limiter simplement aux passagers qui étaient trois rangées devant, trois rangées derrière. Alors, j'ai le sentiment ici que faut faire attention dans les médias de pas semer la panique, évidemment. Mais je m'attends à ce qu'on ait une méthodologie qui soit un peu plus rassurante. Personnellement, en tout cas, je crois que les gens de la santé publique devraient faire le point sur ça, parce que beaucoup de gens qui se posent des questions. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
L'art est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect.
On parlait il y a quelques secondes de cette menace de pandémie qu'il y a autour du coronavirus et ça semble même vouloir contaminer les marchés boursiers. On va en parler avec notre chroniqueur économique, Michel Girard, chroniqueur à la section Argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour.
Alors, la bulle boursière, semble-t-il, va attraper le rhume?
En tout cas, elle l'a attrapé hier. Elle a toussé fortement hier. Mais il faut remettre ça, évidemment, dans sa juste perspective. Quand on est dans une bulle boursière, peu importe les périodes, évidemment, les investisseurs sont extrêmement nerveux. La raison est très simple. C'est qu'ils veulent, évidemment, protéger leurs gains qu'ils ont accumulés sur papier. Alors, évidemment, la moindre nouvelle d'importance peut entraîner, évidemment, des baisses assez importantes sur les marchés boursiers et qui sont extrêmement volatiles depuis le début des années 2000. Or, et puis plus les années avancent, plus les marchés sont volatiles. Alors, évidemment, la nouvelle voulant que la propagation du coronavirus prenne de l'ampleur a fait en sorte que, parce que évidemment, les gens, tu sais, hier c'était lundi, donc la première journée de la première séance de la semaine. Alors, pendant le week-end, les grands investisseurs, parce que entre nous deux, là, on s'entend que c'est pas toi puis moi qui font bouger les marchés.
C'est les gestionnaires de portefeuille.
Ce sont les grands investisseurs institutionnels. Mm-hmm. Alors, les caisses de dépôt de ce monde, là, parce que chaque, tu sais, comme la caisse de dépôt, ils ont toujours une portion du portefeuille pour jouer sur, entre guillemets, sur les marchés. En tout cas, bref, toujours est-il qu'ils ont eu, pendant le week-end, ils se sont quasiment entendus ensemble pour faire planter les marchés. Bon, alors... Et puis, on a vu donc hier le Dow Jones, qui est l'indice là, que l'on suit à travers le monde, là, il a perdu 1000 points. Évidemment, on n'est pas comme en 1987 là, pour ceux des plus âgés. On se rappellera que lors du crash de 2007, le Dow Jones avait perdu 527 points. Qui représentait une baisse de 20 %. Hier, on a perdu le double, mais ça représentait une baisse de 3,5 %.
Parce que le volume actuellement en bourse est gigantesque. Tu faisais le commentaire la semaine passée à quel point la bourse est en feu en général. Là,
ça progresse. Alors, ce que je dis aujourd'hui, c'est que ce qui s'est produit hier, bon, moi, en tout cas, je trouve ça, entre guillemets, bienvenue, là. Évidemment, il y a bien des gens qui vont me lancer des roches à cause de ça, là. Mais bienvenue dans le sens parce que les marchés sont tellement gonflés à bloc. Mm-hmm. On est vraiment dans une grosse bulle boursière. On est dans la 11e année d'un marché, ce qu'on appelle un bull market, un marché haussier. Mm-hmm. Alors, ça ne s'est jamais produit antérieurement. Donc, c'est la première fois de l'histoire. Alors, évidemment, plus la bulle se gonfle, plus on est nerveux. Alors, et la moindre nouvelle, comme je le disais, là, c'est l'histoire du coronavirus, fait en sorte qu'on a des excuses pour pouvoir corriger le marché. Et regarde, c'est pas compliqué. Alors, tu sais, si les marchés, comme je le dis dans mon texte aujourd'hui, si les marchés ont été assez fous en 2019 pour que le S&P 500, qui est le plus important indice boursier au monde, le S&P 500 de la Bourse de New York, mm-hmm. et le Nasdaq, là, mm-hmm. Toujours de la Bourse de New York, grimpe de 31 à 35 %. Alors, les marchés sont assez fous pour, évidemment, qu'on se corrige de la même ampleur en l'espace d'un semestre ou d'un trimestre. Alors, c'est fou comme ça.
Mais Michel, on dirait quasiment, est-ce que c'est comme un cercle vicieux? Est-ce que la croissance en bourse est liée justement à ces craintes de crash, comme si les investisseurs voulaient se rattraper au plus vite, puis c'est ça qui crée un effet d'entraînement?
Ce qui s'est produit, c'est que à la surprise d'ailleurs, tu vois, la semaine dernière, le nouveau PDG de la Caisse le soulignait, c'est que, tu sais, les gestionnaires de portefeuille, de grands portefeuilles, eux-mêmes, ils n'en reviennent pas de voir comment, en 2019, les grands indices boursiers avaient aussi fortement monté, parce que c'était pas relié à la croissance de l'économie, c'était relié à une espèce d'enthousiasme boursier.
C'est ça.
Alors, c'est toujours le même phénomène qui se produit dans les bulles boursières, c'est un enthousiasme débridé. Puis à un moment donné, on se fait rattraper par la réalité. Et là, ce qu'on craint au moment où on se parle, c'est que bien sûr, l'impact du coronavirus en Chine, notamment, parce que la Chine, tu vois, il y a 20 ans, la Chine représentait à quoi 5, 6, 7% du PIB mondial, alors qu'aujourd'hui, la Chine, c'est 20% du PIB mondial. Alors, la Chine est plus importante dans le PIB que les États-Unis au moment où on se parle. Alors, c'est évident que s'il y a un ralentissement économique, puis on s'entend, quand on parle de ralentissement économique en Chine, là, regarde, c'est qu'au lieu de 6 % ils vont croître de 5 %
Fait que la Chine est rendue partout dans notre économie, tant au niveau manufacturier qu'au niveau politique. Moi, je me souviens, on disait que quand les USA ont la grippe, le Canada éternue, le rôle central de la Chine a encore augmenté cette interdépendance mondiale.
Ben voilà. Alors, c'est ce qui explique pourquoi que à l'échelle internationale, on craint qu'évidemment ce qui se produit à l'heure actuelle en Chine fasse en sorte qu'évidemment que ça se répercute sur l'économie mondiale. Et ça va se répercuter sur l'économie mondiale. Alors, forcément. Mais maintenant, il s'agit de mesurer qu'est-ce qui le réel impact, et c'est ça qu'on n'est pas capable. Bon, parce qu'on a un problème avec la Chine. Tu sais, aux États-Unis, là, le marché, là, t'es capable de le suivre, l'évolution de la croissance économique, t'es capable de la suivre à la minute près, tu comprends-tu? En Chine, là, ils nous sortent des données, puis on sait jamais si ce sont des vraies données ou des données qu'ils inventent, alors, et on a de la difficulté. Mais cela étant dit, c'est certain qu'il va avoir un impact au niveau de la Chine sur sa croissance. Comme je te dis, au lieu de grimper de 6, ça va peut-être grimper de 5 ou de 4 % mais l'écart fait en sorte que ça se répercute largement parce que les produits qui viennent, tu sais, fabriquer en Chine, mais que la Chine exporte, puis que nous, évidemment, on importe, alors fait en sorte que ça peut avoir une incidence.
Bien sûr. Ça crée un problème d'approvisionnement au niveau des produits qu'on consomme, qui sont de plus en plus fabriqués là-bas, mais ça contribue aussi à un problème lié au fait que le marché chinois est aussi un marché de consommation important, je pense.
Ben ouais, c'est bien certain, tu comprends-tu? Même si tu prends le Canada ou le Québec, plus simplement, alors c'est bien certain qu'on importe nettement plus, on importe, écoute, 4 à 5 fois plus que ce qu'on peut exporter en Chine. Sauf que, évidemment, si tu réussis à croître ne serait-ce que de 1% tes exportations vers la Chine, ben
ça
déjà,
beaucoup,
évidemment,
hein?
tu fais tourner ton économie, comprends-tu?
Ouais.
Donc, c'est pour ça que il faut évidemment suivre exactement ce qui va se produire comme impact sur l'économie de la Chine avec cette histoire de coronavirus.
Alors,
évidemment, on croise les doigts pour qu'on trouve un médicament au plus sacré. Tout le monde va en bénéficier.
On a un laboratoire à Montréal, en tout cas, qui semble être sur une piste intéressante. Merci beaucoup, Michel Girard, chroniqueur à la section Argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec.
Au revoir.
Vous écoutez Politiquement Incorrect.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Politiquement incorrect.
Cube Radio.
Grosse nouvelle quand même, hein, arrivée en début de semaine, que l'abandon du projet Tech Frontier, je rappelle à tous ici, c'est un gros chantier de sable bitumineux qui était projeté dans le nord de l'Alberta. Une nouvelle qui réjouit certains et qui en inquiète beaucoup d'autres. On va voir les deux versants de la médaille, deux côtés de la médaille à l'émission aujourd'hui. On va commencer par une entrevue avec Germain Belzile, qui est chercheur associé senior à l'Institut économique de Montréal, qui, bien sûr, a un regard économique sur la chose. Monsieur Belzile, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, cette décision-là, pour vous, va certainement avoir de grosses conséquences économiques au Canada.
Ah, tout à fait. En fait, c'est surtout que c'est pas le premier projet qui est annulé, soit par une compagnie qui tout simplement décide de retirer son projet parce que elle ne voit pas la fin du processus d'approbation, ou encore parce que le gouvernement fédéral lui-même annule, comme par exemple Northern Gateway dans le nord de la Colombie-Britannique a été annulé par le gouvernement fédéral, mais sinon Energy East, Tech Frontier, et puis même Trans Mountain. Trans Mountain, la compagnie, a décidé qu'elle abandonnait le projet, puis il a fallu que le gouvernement fédéral achète en fait cette compagnie-là pour que ça se poursuive.
Mm-hmm. Ben, c'est sûr qu'un secteur économique comme celui-là a une grande importance, particulièrement pour l'Alberta, puis certains diront bien évidemment au niveau de l'enrichissement collectif des Canadiens, mais c'est sûr que ce développement économique-là se fait dans un contexte de vouloir limiter nos émissions de gaz à effet de serre.
Mais il faut comprendre que on n'est pas les seuls producteurs au monde. Il y en a partout de la production de pétrole. Et si on décide, nous, de ne pas produire du pétrole, ben il y a juste d'autres pays qui vont être très contents de nous remplacer, de remplacer la production qui sera faite au Canada. L'enrichissement va se faire ailleurs. Et puis en plus, les autres pays qui vont prendre notre place ne sont souvent pas soucieux de l'environnement comme nous. En fait, émettent beaucoup, beaucoup plus de gaz à effet de serre. Le problème, c'est pas la production. Le problème, c'est la consommation de produits pétroliers. Mm-hmm. Et ça, on en a encore pour un bon bout de temps. En
fait. Ben, c'est sûr qu'au niveau mondial, on est d'accord que, bien évidemment, le problème, c'est la consommation de ces énergies fossiles-là. Mais j'ai toujours de la misère quand j'entends dire que nos sables bitumineux génèrent un pétrole qui est plus écologique que les autres. On sait pourtant très clairement que le processus d'extraction, puis là, ici, il faut rappeler aux gens que le pétrole est dans le sable et que pour séparer le sable de l'huile, du pétrole, on doit injecter, en général, là, c'est la méthode la plus commune, injecter beaucoup de vapeur pour séparer ça, créer de la chaleur, liquéfier un peu la glu en question et faire cette vapeur-là. C'est ça qui prend beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est quand même pas, c'est pas possible de dire que ce pétrole-là est plus propre, mettons, que la référence qui est le sable issu des plateformes en Norvège.
Oui, mais par contre, deux choses là-dessus. Premièrement, on émettait beaucoup, beaucoup plus de gaz à effet de serre en produisant du pétrole en Alberta il y a 20 ans que maintenant. En fait, on est rendu à quelque chose comme 7%, si je me souviens bien des derniers chiffres, de plus de gaz à effet de serre, alors qu'on était à 25%, je pense, il y a quelques années. Et puis, le pétrole canadien, il émet quand même moins de gaz à effet de serre que celui du Venezuela, que celui de la Californie, en passant. Puis, les environnementalistes, j'ai pas entendu souvent manifester contre le pétrole californien, qui est pourtant plus émetteur de gaz à effet de serre que le nôtre.
Mais M. Belzile, parlons-en, le pétrole californien ou le pétrole qui arrive d'Amérique du Sud, en quoi est-ce qu'il est plus polluant? C'est aussi des sables bitumineux dont on extrait l'huile à partir des sables avec des principes de vapeur?
Oui, tout à fait. C'est aussi du pétrole lourd, en fait. Au Venezuela, c'est à peu près juste ça qu'ils ont. Et ben là, leur industrie est en train d'imploser à cause de l'imposition du socialisme chez eux. Là. Il y a à peu près plus de production qui se fait, mais ils ont d'énormes réserves. Et actuellement, ben le pétrole, vous savez, si on remplace notre pétrole par celui du Nigeria, faut pas penser qu'au Nigeria, il y a les mêmes normes qu'au Canada, entre autres, à tous les niveaux pour l'environnement.
Ah, j'en doute pas. Au niveau environnemental, bien évidemment, on est au Canada, puis on est conscient de ce qu'on fait, mais la matière première. Moi, je me rappelle, j'étais tout petit là, quand Petro-Canada est apparu, puis on était dans cette histoire des sables bitumineux, puis on voyait ça comme une ressource infinie. Mais à l'époque, le baril était à 150$ le américain. Je veux dire, il y avait un espace pour dépenser autant d'énergie et donc de pollution, mais aussi d'argent pour générer un baril de pétrole. Aujourd'hui, la situation est quand même moins porteuse d'espoir. Là, on ne peut pas imaginer que ça vaut la peine d'injecter tant de fonds publics dans des infrastructures d'une énergie qui s'en va quand même en fin de parcours, non?
Mais c'est pas des fonds publics, là, c'est des fonds privés qui sont injectés là-dedans. Là. C'est la compagnie Tech Frontier, elle a dépensé 1,13 milliard jusqu'à date pour développer son projet. Elle a eu l'accord de toutes les Premières Nations qui étaient concernées. Puis le processus réglementaire, c'est beaucoup plus compliqué. Elle a coché toutes les cases, elle a toute l'approbation. Tout ce qui manque, c'est l'approbation du gouvernement fédéral qui ne vient pas. C'est pas compliqué, ils répondent pas. Et puis, en plus, ils voient, eux autres, à la compagnie, ils voient ce qui arrive avec les blocus de train. Il suffit que quelques personnes pas contentes fassent une barricade sur une rail, tout est paralysé. Ils se disent, ben là, c'est impossible de faire des trucs au Canada. Et ce qui est triste, c'est que ce qu'on dit maintenant du Canada à l'échelle internationale, c'est ben le Canada, il n'y a plus de respect de la règle du droit, de la primauté du droit. On a beau tout faire, on a beau remplir toutes les cases, remplir toutes les exigences réglementaires, en bout de ligne, ça se fera pas. Là, on a perdu 100 milliards de dollars d'investissement au cours des dernières années. Petronas en Colombie-Britannique, Northern Gateway, et Tech Frontier. Et puis, ces investissements-là ne viendront pas. Hein. Même les compagnies déménagent, en fait.
Mais, M. Belzile, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle. Je veux dire, je comprends, c'est à toute petite échelle, mais l'amiante au Québec était une façon de vivre pour les gens d'Asbestos, pour les gens de Thetford Mines. C'était une ressource naturelle importante au cœur de l'activité économique. Et malheureusement, il a fallu arrêter parce que le constat international, c'était que l'amiante était dangereuse pour la santé humaine. Ici, quand on s'aperçoit que même l'ONU nomme quelqu'un comme Mark Carney, quand même, c'est quand même l'ancien directeur de la Banque du Canada, le directeur de la Banque de Grande-Bretagne, se retrouve envoyé spécial de l'ONU relativement au désinvestissement, finalement, des grands portefeuilles vers ces sources de pollution que sont l'exploitation, non pas du pétrole, mais du pétrole qui, malheureusement, au Canada, ne vient pas sans un grand coût économique et surtout un grand coût écologique.
Je trouve ça bien hypocrite, tout ça, vous savez. Je donne notre pétrole, il est produit dans des conditions environnementales excellentes, puis il est en demande. Puis si vous faites une comparaison avec l'amiante, il n'y a plus personne qui en voulait. C'est pas compliqué. C'est pour ça qu'on a arrêté d'en produire. C'est pas parce que c'est pas pour des raisons environnementales qu'on a acheté le produit, c'est parce que plus personne voulait l'acheter.
Parce qu'il y avait un constat sur le côté dangereux de l'amiante, mais on ne peut pas nier. Moi, ça me fascine toujours. Là. J'ai passé 8 ans à la Chambre des communes à entendre des gens qui, plutôt que de reconnaître qu'il y aurait peut-être de façon plus durable d'exploiter les sables bitumineux, en faisait la protection sans entendre le moindre argument. Il fallait soit être pour ou être contre. Alors que, par exemple, si on regarde, je trouve dommage que, dans l'actualité, on a un peu mis sous le tapis la belle annonce qui a été faite avec la Nation CRI pour la réalisation de projets qui vont profiter à tout le monde là-bas. Et ça parlait, entre autres, de prolongement d'un réseau ferroviaire qui s'est fait donc dans une entente avec les Premières Nations. Une vision, un plan qui m'apparaît toujours absent par rapport à l'exploitation des sables bitumineux. On ne veut pas considérer, par exemple, l'utilisation de l'électricité pour générer cette vapeur.
Mais l'électricité, vous savez comment elle est produite en Alberta? Elle est produite à partir d'hydrocarbures. Les seuls endroits au monde où on a beaucoup de ressources hydroélectriques, c'est la Norvège, le Québec un peu en Russie, puis un peu aux États-Unis. Mais à part la Norvège, puis nous, il n'y a personne qui produit surtout son électricité à partir d'hydro. On le produit à partir de gaz naturel ou de mazout ou de charbon partout ailleurs.
Mais M. Belzile, je m'excuse de vous interrompre. Mais M. Belzile, oui, bien sûr, on est d'accord là-dessus. Là. Actuellement, tout le monde se promène en voiture. On a besoin de pétrole, c'est très évident. Puis d'ailleurs, il ne faut pas amalgamer tous les pétroles canadiens avec celui des sables bitumineux en Alberta. En Saskatchewan et un peu au Manitoba, il y a des puits de pétrole standard là, par forage avec directement une pompe. C'est un autre.
J'ajoute un petit truc technique ici. Ouais. Vous savez, la grosse révolution actuellement aux États-Unis, c'est la fracturation hydraulique pour le pétrole. Ça produit du pétrole extrêmement léger. La plupart des raffineries en Amérique du Nord ne sont pas faites pour ce pétrole-là. Mmh. Il faut le mélanger avec du pétrole plus lourd pour faire un pétrole qu'on est capable ensuite de transformer dans tout ce dont on a besoin, dont du bitume, du naphtha, de l'essence sur les voitures, du jet fuel, etc., etc. Alors, Actuellement, les raffineries en Amérique du Nord, ce qu'elles font quand elles obtiennent du pétrole de fracturation, elles le mélangent avec du pétrole qui vient de Californie ou avec du pétrole qui vient du Venezuela ou avec du pétrole canadien. Ce pétrole-là, on en a besoin à cause de ses caractéristiques. Alors, on peut pas laisser... Autrement dit, s'il n'est pas extrait ici, il va être extrait ailleurs, ce pétrole plus lourd. Écoutez, on en a besoin de ce pétrole-là. Puis en plus de ça, on est là. C'est vraiment tout à fait incroyable. Les pays scandinaves, on les voit comme des pays tout à fait
exemplaires.
Exemplaires. Ben, écoutez, ils ont fait une découverte majeure en Norvège.
Dans les années 70, ouais, ça les a sortis de la misère.
Non, tout à fait. Récemment, dans les dernières semaines, ils ont annoncé une grosse découverte. Puis ils vont de l'avant avec l'exploitation. Le seul pays que je connais au monde où découvrir ou en tout cas décider, tiens, on a une ressource naturelle, exploitons-la. Le pays au monde, c'est une catastrophe. On a une catastrophe. C'est le Canada. On est vraiment une exception à l'échelle mondiale.
Monsieur Bézé, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler parce que moi, en tout cas, j'ai souvent entendu parler d'un grand projet de barrage hydroélectrique dans le grand nord de l'Alberta, sur la Slave River, si je ne me trompe pas, qui aurait pu générer l'électricité requise pour les grandes villes de Calgary et d'Edmonton, mais en attendant, aurait pu aussi fournir l'électricité requise pour l'exploitation des sables bitumineux.
C'est pas impossible. D'ailleurs, on a songé pendant un bon bout de temps à même bâtir des centrales nucléaires en Alberta pour produire des mini-centrales pour produire d'électricité pour produire pour les projets. Mais c'est une possibilité aussi.
C'est pour ça que c'est important d'avoir un débat.
Actuellement, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui veut même investir dans ça, dans quoi que ce soit, parce que on se dit, waouh, on va dépenser des milliards, puis on n'aura même pas les approbations en bout de ligne, on ne saurait de rien faire. Fait que les gens vont ailleurs, tout simplement.
Monsieur Bézé, merci pour votre éclairage. Et très certainement, il faut élargir la conversation et arrêter de se blâmer entre tout noir et tout vert. Merci beaucoup, Monsieur Bézé, chercheur associé senior à l'Institut économique de Montréal. On vous revient tout de suite à Politiquement Incorrect. On passe à l'autre point de vue relié à l'abandon du projet Tech Frontier avec le commentaire de Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Steve.
Salut, comment ça va?
Ça va bien. C'est sûr qu'on vient d'avoir un entretien avec quelqu'un qui, évidemment, défend l'aspect économique de l'exploitation des sables bitumineux, mais qui, très clairement, voit plutôt comme une nuisance les préoccupations environnementales et à son crédit, je dirais maintenant simplement, le cadre législatif que le gouvernement canadien n'arrive pas à clarifier puis à mettre de l'avant, à ce que les bottines suivent les babines.
Ben c'est drôle parce que d'une certaine façon le PDG là de la compagnie Tech a lui-même avoir été malgré lui donc au centre de cette espèce de devoir de clarification parce que ce qu'on doit considérer dans tout ça c'est que d'une certaine façon l'abandon j'avais partagé un texte du Toronto Star la semaine dernière où justement on parlait des dissensions qu'il y avait dans le caucus de Justin Trudeau par rapport à ce projet-là, mais il y avait aussi donc à la toute fin l'avis de certains spécialistes qui disaient mais il y a quand même des grosses chances que ça se passe pas tout ça parce que premièrement le prix du baril de pétrole est trop bas, deuxièmement il faut quand même le voir là, il y a des sources de pétrole encore abondantes pour bien au-delà de l'horizon de ce projet-là et surtout c'est que ces grands projets-là la plupart des grands investisseurs des grands fonds se retirent de ça. J'étais étonné. En fait, j'ai beaucoup appris en lisant un texte dans le Bloomberg ce matin, donc un texte qui est signé par Kevin Orland puis Robert Tuttle. Et ces gens-là, donc, expliquent que peut-être que le fait qu'on ait mis le clou dans le cercueil de ce grand projet-là, ça sonne le glas de tous les autres grands projets de ce type-là. Mm-hmm. Parce qu'en même temps, Tech Frontier, ça va pas de l'avant, mais le PDG de la compagnie Tech a aussi annoncé qu'il se retirait du dernier grand projet, celui qui avait été lancé en 2018, le dernier grand projet de ce genre-là, Tech était aussi partie prenante là-dedans, ils vont aussi se retirer de ça. Donc, en quelque part, là, il y a peut-être une espèce de... On va peut-être forcer forcer la main, finalement, à cette industrie-là à se reconfigurer. Et tout à coup, ce qu'on comprend aussi, c'est que même si l'industrie, même si les plus grands défenseurs de l'industrie pétrolière au Canada disent « Oui, le cadre réglementaire est trop difficile et tout ça », en fait, on ne peut plus se passer des considérations environnementales. Ça ne se fait plus. Et même l'industrie, elle, le reconnaît là et intrinsèquement le reconnaît dans ce projet-là.
Mais j'étais content d'entendre le premier ministre Trudeau hier, je crois qu'il disait à Andrew Scheer qu'il politisait le débat sur l'environnement, puis c'est tout à fait vrai. Je ne sais pas si ça s'est rendu jusqu'à toi, Steve, mais il y a à peu près un an et demi, j'avais essayé de rassembler tous les chefs des partis à la Chambre des communes pour convenir que la prochaine campagne électorale serait sur comment on allait atteindre nos cibles de limitation de gaz à effet de serre plutôt que si... Parce qu'on est toujours dans le si. On peut pas dire, comme M. Scheer, qu'il fallait développer Tech Frontier et imaginer qu'on va atteindre nos cibles avec un projet pareil. Et pourtant, c'est dans une tendance mondiale. As-tu trouvé une source lumineuse d'espoir dans la nomination de Mark Carney pour surveiller justement ces investissements-là dans ces grands projets-là?
Ben l'espèce de dichotomie là à laquelle on en est arrivé. Puis je pense que là on a les deux pieds dedans. Puis le Canada se trouve là aux premières loges de ça. C'est que les considérations environnementales là, puis l'espèce de devoir moral et de devoir, si on veut là, même c'est plus que ça. C'est une urgence. On doit y voir. Puis ça va se superposer aux intérêts financiers à un moment donné. On n'aura pas le choix. Cependant, on doit quand même rappeler une chose. Quand Justin Trudeau a été élu en 2015, rappelons-nous qu'un de ses premiers gestes, là, il était à quelques jours, les sondages, donc on voyait bien qu'elle a été élue, ben, il avait dépêché rapidement son bras droit Dan Gagné, pour aller voir les gens de l'industrie pétrolière, puis dire, voici comment il faudra faire discrètement, là, voici comment il faudra faire pour faire le lobby par rapport à... moi, j'avais sursauté, donc c'est sûr, Dan Gagné s'était retiré de la campagne ensuite, mais on était encore dans cette dynamique-là, et probablement que l'abandon de Tech Frontier dans ce contexte-là, ça va permettre justement à Justin Trudeau de peut-être saisir l'occasion pour justement amorcer ce nécessaire virage-là dans la façon dont on envisage les projets pétroliers au Canada. Et s'il ne le fait pas là, ben il ne le fera jamais.
Exact.
Et là-dessus, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi quand on dit que les prochaines campagnes électorales fédérales devront non seulement se jouer en fonction des cibles qu'on doit atteindre, mais surtout, comment on va faire pour dire, pour concilier cette espèce de dysfonction de la Fédération canadienne entre les intérêts de l'Alberta, la Saskatchewan et ce que... Parce que là, on l'a vu aujourd'hui, là, Jason Kenney est au front depuis ce matin, là, puis lui, il est en furie, puis on recommence à parler d'unité nationale sur fonds de développement pétrolier. Ben ça, c'est la grosse dysfonction qui avait été annoncé en 2013-2014 par le Foreign Policy quand il avait dit Canada, c'est l'espèce de gentil voisin du Nord, ben il est devenu un rogue petrol state. C'est pas rien ça.
Absolument.
Mais on est là-dedans, puis il disait, ben l'élixir du dysfonctionnement politique au Canada, c'est le pétrole. On le disait en 2013-2014 dans un texte du prestigieux Foreign Policy, et c'est toujours plus vrai aujourd'hui. Puis quand on voit la réaction de Jason Kenney, là, ben on comprend que même si ce projet-là était abandonné, là, il y a un autre projet il y a un autre problème sur les bras de Justin Trudeau. Ça va être celui de la question de l'unité nationale.
Oui. De l'Alberta, là, qui en a plein son casse. Mais honnêtement, moi, je pense que ça, ici, on est vraiment dans une rhétorique politique dans la mesure où l'Alberta serait pas plus avancée. S'ils sont vraiment fâchés puis qu'ils décident de se séparer, ben, ils vont quand même avoir un problème pour envoyer leur pipeline quelque part, pour envoyer le produit de leur richesse naturelle quelque part. Mais je trouve ça très triste parce que ça fait longtemps qu'on parle de ça. Puis je pense que quand on parle, par exemple, de réchauffement climatique. Beaucoup de militants, beaucoup de spécialistes nous disent non, on ne peut plus parler de réchauffement climatique, il faut parler de crise climatique. Bien, de la même manière, moi, je trouve que quand on parle du pétrole canadien, on fait fausse route parce qu'il faut parler du pétrole issu des sables bitumineux. Pour les gens à la maison, ça peut sembler une subtilité, mais tu es d'accord avec moi, Steve, que c'est une énorme différence. Il y a une grosse différence entre entre un puits de pétrole qu'on peut voir en Saskatchewan avec un marteau, là, comme on a vu au Texas dans toutes les images. Il y a une grosse différence entre ce pétrole-là, dont le gros de la pollution se fait dans le raffinage puis dans l'utilisation par les véhicules et le chauffage et tout ça. Il y a une énorme différence entre ce pétrole-là et le pétrole issu des sables bitumineux. C'est pas du tout le même bilan environnemental, quoi qu'en disent les défenseurs actuels des sables bitumineux.
Oui, je sais, mais de façon plus large, il faut se sortir de l'économie du pétrole. Il faut envisager notre développement en dehors de ce cadre-là, puis être capable de regarder maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre les gens, pour rendre, par exemple, l'alternative, pour proposer une alternative aux gens, par rapport à cette économie-là, tu sais, en anglais, là, aux États-Unis, on parle de petroleum driver, là, tu sais, parce que moi, j'étais encore très étonné, j'étais à Philadelphie la semaine passée, puis tu te promènes là-bas, puis tu regardes, je veux dire, tu trouves presque pas de bornes de rechange.
Mais non,
on trouve pas ça. C'est vraiment une économie qui est drivée, là, mur à mur par le pétrole, et là, on se dit, mais... Nous, on a fait une petite avancée, puis au Québec, puis même de plus en plus au Canada, faut le dire, on voit, là, tu peux pas t'arrêter maintenant sur le bord d'une autoroute au Québec sans voir que, où avant on voyait une borne de rechange, ben là, maintenant, on en voit 4, 5, 10. Puis on devrait tellement être fiers de ça, puis s'il y a quelque chose que le Québec doit exporter le plus,
c'est son électricité.
C'est son électricité, puis c'est la réussite qu'on a par les incitatifs aussi qu'il y a à acheter un véhicule électrique.
Bien sûr.
Mais de la même façon, un jour, va falloir pénaliser l'achat d'un véhicule à essence. Mm-hmm. Puis moi, je chauffe, tu sais, on a une camionnette, là, nous, là, mais j'ai rien contre ça. Puis si t'as vraiment besoin d'en avoir une, ben écoute, il faudra, on n'aura pas le choix, puis la camionnette électrique et tout ça, on n'a pas le choix, faut arriver vers ça, on peut pas...
Je suis d'accord avec toi, mais je pense aussi qu'il faut aussi essayer de polariser le débat. Tu sais, par exemple, quand on parle de voitures électriques, ben c'est sûr que c'est une discussion un peu plus urbaine. Je veux dire, si tu t'en vas sur une route de Garnett à Bay James, tu vas chercher longtemps ta borne. Tu sais, la fille qui faisait Gemidro l'a bien illustré à quel point il fallait qu'elle planifie ses déplacements. Mais profondément, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'au niveau environnemental au Canada, on devrait peut-être commencer à parler. On a beaucoup parlé, M. Legault a beaucoup parlé qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale pour un nouveau pipeline qui traverserait le Québec. Dieu merci. Mais on pourrait commencer à parler d'acceptabilité sociale, de changement de paradigme. On pourrait parler d'acceptabilité sociale pour l'Alberta, de faire migrer son économie vers autre chose, avec le soutien du Canada. Je veux dire, l'Alberta, on se met à leur place. Nous, on est bien fiers, puis on a juste le titre d'avoir nationalisé l'électricité. Puis bon, il y a des gros enjeux qu'Hydro-Québec, on va en parler tout à l'heure, mais il y en a pas moins que c'est une richesse québécoise. Mais on est chanceux, on a une richesse qui est venue d'un pacte, entre autres, avec les Premières Nations, puis on a bien exploité ça, puis on l'a nationalisé. Mais au niveau de l'Alberta, on m'a dit, c'est pas drôle d'être un Albertain aujourd'hui. Ils font du bœuf, puis du pétrole, puis dans les deux cas, ça pollue, paraît-il. Je veux dire, il va falloir tendre la main à l'Alberta pour les aider à migrer vers autre chose au niveau économique. Ces travailleurs-là ont besoin de travailler puis de mettre du pain sur la table.
Est-il besoin de rappeler que le Québec a développé seul son hydroélectricité, sa transformation et tous ces grands chantiers-là? Moi, ça me rappelle à quel point c'est méprisant ensuite quand on se fait envoyer paître justement par certains des politiciens de l'Ouest canadien qui nous parlent de péréquation. À un moment donné, je me dis oui, on veut bien aider, mais il faudra qu'il y ait aussi une certaine reconnaissance là de ce qu'on appelle le fiscal imbalance. On a appelé ça longtemps comme ça. Mais en même temps aussi, il faudra que ces gens-là acceptent un jour que s'il y a eu une transition qui a été faite ici, ben elle a été faite à grands efforts et par la nation québécoise et aussi son partenariat avec les Premières Nations. C'est tellement important de le souligner, ça.
Absolument.
Moi, de ce côté-là, j'ai aucun problème avec ça. Pour le bien commun de tout le monde, il faudra aider l'Alberta, en tout cas ce secteur-là de l'économie, il faudra encourager, il faudra tout le monde mettre l'épaule à la roue pour engager une transition vers autre chose.
Oui, absolument, il faut dialoguer parce qu'actuellement, c'est...
Non, en plus, il y a des possibilités là-bas, les gens le disent, puis c'est ça qui est le plus drôle, c'est que là, on va planter le micro sous le nez parce que ça fait de la bonne nouvelle, ça va faire du clic, on va planter le micro sous le nez de Jason Kenney, mais on n'ira pas voir des gens, par exemple, à l'université d'Edmonton puis Calgary, il y a des gens sur des campus qui travaillent déjà à des projets qui pourraient remplacer ces grands projets pétroliers-là. Il faut aussi en parler à ces gens-là.
C'est ça, il faut arrêter de donner de toujours donner la parole aux gens de l'industrie plutôt à des citoyens albertains qui, en passant, financent beaucoup l'exploitation des sables bitumineux parce que, si je me souviens bien, ils ont très peu de redevances parce que le baril est trop bas. Donc, les Albertains reçoivent bien peu de redevances au niveau du pétrole et, en plus, financent beaucoup le gaz naturel qui est utilisé pour faire la vapeur. Hey, Steve, faut qu'on se laisse. Un énorme merci. Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. À bientôt. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
L'art est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect.
Fait qu'on parle aujourd'hui, politiquement correct, de choses qui sont éminemment pas correct. Vous êtes pas sans savoir que suite au reportage diffusé par Félix Séguin à TVA, hier, Hydro-Québec a annoncé qu'elle avait évidemment suspendu son employé Guy Huot et qu'ils allaient référer à l'UPAC ce cas qui évoque une forme de corruption. Puis si on se fie au témoignage de M. André Dansereau, il y aurait de nombreux cas d'abus et d'échanges d'argent pour des faveurs et des contrats obtenus du côté d'Hydro-Québec. Ce matin, mon ami Benoît Dutrisac a fait une entrevue où on a entendu des révélations étonnantes de la part de M. Dansereau. Je vous laisse entendre le premier. On se parle après avoir entendu le premier extrait de l'entrevue.
Moi, j'ai sollicité des meetings parce que lui, M. Guy Huot, il s'en va en retraite, je le sais, depuis des années. Et puis, j'ai préparé avec lui des meetings futurs avec un dauphin, avec un architecte, un autre architecte qui va continuer, qu'on puisse continuer la tradition. Mais la tradition, là, c'est de continuer la corruption.
C'est quand même incroyable d'entendre dans la même phrase le mot dauphin et le mot corruption. Pour moi, le mot dauphin, c'est comme quelqu'un à qui on laisse les commandes de quelque chose pour perpétuer une œuvre, une mission. Mais ici, on parle de corruption. M. Dansereau, donc, fait cette sortie et ne lésine pas sur les commentaires et sur les informations qu'il déploie. Il prétend d'ailleurs, ben, on le croit sur parole, mais il dit avoir averti Hydro de cette situation-là. On l'écoute.
Hydro-Québec, depuis 2017 que je les avertis, depuis 2017 que j'envoie des emails à des gens d'Hydro-Québec pour les avertir de régler les problèmes qu'ils ont avec mon frère. Je trouve que mon frère s'est fait varloper, s'est fait écœurer depuis des années par la grosse machine d'Hydro-Québec, par les gros entrepreneurs généraux. Et puis, oui, je sais exactement dans quoi je m'embarque. Je les ai avertis. J'ai même été convoqué par le département de déontologie d'Hydro-Québec. Puis encore là, ça a foiré. Je leur ai dit comment je voulais que ça fonctionne. Ils n'ont pas accepté. Je les ai menacés, je leur ai dit, bien écoutez, vous verrez les noms des médias en temps et lieu.
Je connais beaucoup de monde, en tout cas, chez Hydro-Québec, qui doivent s'arracher les cheveux aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont décrit Hydro-Québec comme la grande fierté des Québécois, une source de profit, évidemment, pour l'État, une source de fierté, même une source de développement durable au niveau de l'hydroélectricité, même aussi, peut-être pas une source, mais un contexte de bien vivre avec les Premières Nations, avec lesquelles on a développé certains projets, et ça fait toujours mal. On est, en tout cas, moi, comme Québécois, je suis comme estomaqué de voir ici quelqu'un évoquer un tel niveau de corruption dans l'attribution de contrats chez Hydro-Québec. Évidemment, Hydro-Québec, c'est pas d'hier. On sait qu'il y a beaucoup de monde là. Ça fait longtemps qu'on en parle. Je me souviens, à l'époque, il disait qu'on était 12 012. C'est une grande entreprise. On est fiers de l'expertise de cette entreprise-là. Mais aujourd'hui, là, le voile se lève sur un niveau de corruption qu'il faudra déterminer. L'UPAC va s'en mêler. Mais on continue dans les révélations qu'a fait monsieur Dansereau ce matin.
C'est en 2004 que le premier contrat, les premières corruptions, c'est un contrat qui a été fait à la Romaine, où est-ce qu'on a négocié, moi et Guy Huot, un devis spécial. Ça a été comme papa dans maman. On a créé le devis pour que personne puisse nous compétitionner. Fait que je lui ai donné 5 000 $, puis on a eu le contrat.
C'est dit sur un ton d'une bonhomie. Ça semble, en tout cas, très spontané. Puis on a ici quelqu'un qui se vide le cœur, qui a clairement contribué à un système qui, de toute évidence, est malsain et qui se fait dans le dos des Québécois, dans le dos d'Hydro-Québec. Et ça semble pas être quelque chose qui est récent, de toute évidence. On continue sur la prochaine révélation qui démontre comment on peut arriver à frauder à ce point-là le système.
J'ai booké une réunion. J'ai tout de suite senti comme quoi que ça sonnait faux. Parce que l'architecte avec qui j'ai parlé, je me souviens pas si c'était Guy Huot ou un autre, mais il m'a dit que la seule manière que je pouvais leur parler, c'est si je fournirais le lunch en partant. S'il n'y a pas de lunch, les architectes ne se présenteraient pas. Enfin, okay. Un, il fallait que je leur paye à dîner, chose qu'on a fait. Mais ce que je me souviens clairement, c'est qu'après la présentation, c'est Guy Huot qui est venu me chercher. On a sorti à l'extérieur et puis il m'a dit comme quoi que pour avoir les spécifications, ça prendrait de l'argent. Il faudrait qu'on paye. Moi, je comprends. comprenait rien, là. Fait que là, je lui ai dit, c'est quoi vous voulez dire? Là, il m'a dit de le rappeler le lendemain qu'on bouquerait un dîner dans un restaurant, sur De Maisonneuve qui est présentement fermé. Je m'en souvenais toute ma vie du restaurant parce qu'il a commandé une bouteille de vin à 200$. En 2004, une bouteille de vin à 200$, c'était du bon vin, ça, là.
Donc, c'est pas. C'est Guy Huot qui vous a sollicité pour être corrompu.
C'est Guy Huot qui m'a montré comment corrompre.
C'est sûr, en tout cas, que c'est un témoignage qui glace le sang. Faut pas exagérer, mais c'est un témoignage assez perturbant. D'abord, je trouve, de spontanéité. Hein. C'est-à-dire que le gars nous raconte ça. On peut se dire, ben voyons, man, t'as contribué à cette situation-là. T'étais là-dedans quand même tout ce temps-là, mais il a aussi le droit, en tant que citoyen, de dire, là, ça n'a plus de bon sens, faut que j'en parle. Et il se vide le cœur. J'ai hâte de voir, évidemment, ça va être un processus qui est très lent. Si l'UPAC s'en occupe, ça risque d'être peut-être bien fait, mais ça va certainement être long. Mais il écorche, M. Dansereau, aussi au passage, une autre façon que les contracteurs ont de négocier des bénéfices qui vont au-delà des devis estimés par Hydro-Québec. On l'écoute.
On va parler avec M. Martel là, de la surfacturation. J'ai vécu pendant 3 ans tout le pognage de cul, les innombrables heures facturées qui n'ont aucun bon sens. Vous, là, si je vous charge 23 heures pour poser une poignée de porte, là, c'est ce que l'entrepreneur facture. 40 heures. Un homme, 40 heures. Il y a juste 24 heures dans une journée. 40 000$ pour 300 pieds carrés réparer un mur. Ça fait 1 000$ du pied carré pour réparer un mur. Mon laptop est plein à craquer. J'ai des preuves.
Évidemment, en cette ère de désillusion qui nous frappe souvent, parfois c'est décourageant. Moi, j'essaie d'être un éternel optimiste, puis j'essaie de me dire qu'il y a toujours des solutions, mais force est d'admettre ici qu'il est possible que quand une entreprise est aussi grande, puis quand il y a... c'est des devis, c'est tellement complexe. Hein? Ici, on parle pas là, de l'accotement sur la route qu'on a utilisé parce qu'on a eu une crevaison, puis qu'on s'est dit, non, comment ça se fait qu'il est mal entretenu comme ça, j'ai failli tomber. On n'est pas dans quelque chose que le commun des mortels peut aller vérifier. Mais la vérité ici, c'est que on a un gros donneur d'ouvrage et qui est une énorme entreprise. Puis ce qu'on questionne avec le témoignage de M. Dansereau, c'est à quel point il y a une supervision rigoureuse de tout ça. Avoir M. Huot dans son entrée de garage hier à l'aube dire « Non, j'ai jamais donné d'argent », on voit à quel point il y a une dimension comme c'est banalisé. C'est comme « Ben ouais, c'est comme ça que ça se fait. » On se croirait dans un vieux film de la mafia du parrain. Il n'a pas fini. Je vous laisse entendre ici les propos de M. Dansereau sur Hydro, qui, en plus de tout ça, à ses yeux, serait mauvais payeur.
Avec Hydro, là, ils partent les travaux en retard, mais la date butoir d'échéance ne change jamais. Donc ça, là, c'est le party pour tout le monde. Ça veut dire là, que tout le monde va s'en donner à cœur joie pour faire de l'overtime puis charger des frais supplémentaires à Hydro-Québec. C'est comme ça sur tous les contrats. Et puis moi, j'ai eu une entente. Hydro-Québec et l'entrepreneur général ont demandé à mon frère de travailler durant la semaine de vacances de construction. On a reporté notre semaine de vacances en échange d'un paiement rapide. On a fait une faveur à Hydro-Québec. On a été payé 16 mois après.
Bon, ça tombe un peu plus dans l'intendance de sa propre compagnie ici. Puis évidemment, la question que tout le monde va se poser ici, la première chose qu'on perçoit, en tout cas, je vais parler pour moi. Moi, comme je vous dis, ça affecte cette espèce de notion un peu galvanisée d'Hydro-Québec qui est une fierté. Puis, bien évidemment, tout le monde a son opinion à dire sur le fait, par exemple, qu'on attend ou pas des remboursements de facturation excessive d'Hydro-Québec. On a parlé des compteurs intelligents. On a tous des opinions là-dessus. Puis d'ailleurs, la pièce, si vous n'avez pas vu la pièce « J'aime Hydro », c'est quelque chose à voir. C'est tellement intéressant. C'est du tort documentaire. Puis ça nous explique justement cette relation un peu particulière qu'on a avec Hydro. On en est fiers, mais en même temps, on leur en veut. Puis on veut pas carnage toutes les rivières du Grand Nord, mais en même temps, on voudrait vendre l'électricité aux États-Unis. Puis bon, puis là, tout à l'heure, on parlait des sables bitumineux, puis on parlait avec Steve du fait qu'on pourrait potentiellement envoyer l'électricité dans les autres provinces canadiennes, peut-être même pour assainir un peu le processus de production pétrolière au Canada. Mais ce qui est certain, c'est que quand on écoute tout ça, on se dit, bon, mais premièrement, cette espèce de côté virginal d'Hydro-Québec est très, très affecté, pas très affecté, je choisis mes mots. Et perturbé ici, fragilisé. Puis, évidemment, ben, on a hâte de voir un peu où s'en va M. Dansereau avec tout ça. On a surtout hâte qu'un enquêteur comme de l'UPAC arrive là-dedans puis dise, écoutez, on a révélé finalement que c'était un cas isolé. On aimerait donc ça entendre ça. Peut-être que ce ne sera pas d'autre chose. Écoutez, politiquement incorrect.
Politiquement incorrect.
Cube Radio.
Publié dans le Devoir d'hier, le 24 février, un article de Renaud Brossard, une opinion libre dans ses pages, où il mentionnait on se trouve dans une situation où le gouvernement va déjà chercher des sommes mirabolantes dans les poches des Québécois, où les dépenses augmenteront rapidement à cause du vieillissement de la population et où le nombre de travailleurs assumant le fardeau fiscal de ces dépenses est en diminution. Il est clair que la situation est intenable. Bonjour, M. Renaud Brossard, Fédération canadienne des contribuables, section Québec. Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous?
Avez-vous eu beaucoup de réactions à votre papier publié hier dans Le Devoir?
J'en ai eu un peu, je vous dirais. J'ai quelques perles dans ma boîte de courriel, mais autre que ça, ça va très bien.
Oui. Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites que nos gouvernements sont venus à accaparer une part de plus en plus grande de l'économie du Québec?
En fait, c'est pour faire écho au plus récent rapport de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, qui fait état du taux de pression fiscale. Ça, c'est la part du PIB qui part en taxes, en impôts et en contributions diverses au gouvernement. Au cours des 10 dernières années, la part que le gouvernement provincial et fédéral se sont accaparés est passée de 36 à 38 c'est quand même c'est pas une si grosse augmentation, mais qui est quand même une augmentation. Donc, malgré le fait que le gouvernement prend de plus en plus d'argent par rapport à l'ensemble de l'argent qui est créé dans l'économie, le gouvernement s'en va tout droit vers le mur quand il y a le temps de parler de la gestion de ses dépenses et de la gestion budgétaire.
Mm-hmm. Et d'après vous, quel devrait être le réflexe premier d'un bon administrateur tout en étant avec en tête un projet de société viable à la hauteur des attentes des Québécois?
Ben, je peux parfaitement comprendre ça, puis je comprends que les gens s'attendent à un certain niveau de service. Et l'idée là-dedans, c'est d'assurer justement la pérennité des services, ce que j'appelle un gouvernement durable. Pour un administrateur qui est devant cette situation-là, d'un côté, on a déjà les taxes, les impôts les plus élevés en Amérique du Nord, certains les plus élevés au monde. C'est très difficile d'augmenter la colonne des revenus. C'est très difficile à faire grossir. D'un autre côté, par contre, nos dépenses croissent beaucoup plus rapidement que nos revenus croissent. Donc, pour un administrateur, l'idée, c'est de regarder au niveau des dépenses qu'est-ce qui peut être fait. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait dans les années 90 au fédéral avec le gouvernement chrétien, le gouvernement Martin, qui ont passé toutes les dépenses en revue pour dire est-ce que c'est le rôle du gouvernement de faire ça? Puis est-ce qu'on en a pour notre argent quand on le fait?
Mm-hmm.
Je pense que c'est le même exercice auquel le gouvernement du Québec devrait se prêter de façon à remettre une certaine viabilité dans notre finance.
Mais dites-moi, François Legault actuellement a tellement un gros capital de sympathie, je pense que beaucoup de Québécois se sentent rassurés quand il émet une opinion relativement à une situation quelconque. Comment est-ce que, d'après vous, il pourrait mettre ce capital de sympathie à profit pour justement faire cette réingénierie sans que ça veuille dire uniquement « on coupe encore ».
Ben, effectivement, c'est sûr, c'est quelque chose qui est difficile pour un politicien. Par contre, je pense que pour l'héritage d'un politicien, il n'y aurait rien de mieux que de s'assurer que notre État soit viable sur le long terme. Et je pense que c'est là qu'est l'angle qui est intéressant, c'est de parler du gouvernement durable. Dire que si on continue sur la même voie, on s'en va vers un mur. À un moment donné, on ne peut pas commencer à s'endetter sans arrêt.
Mm-hmm.
Il y a un point où on frappe le mur. Présentement, dans une situation où on a encore des surplus, dans une situation où on a encore une couple d'années avant de s'aligner pour retourner vers des déficits,
mm-hmm.
on est dans une situation où on est en mesure d'agir tant que ce soit aussi douloureux que si on attend 10, 15 ou 20 ans.
Vous faites allusion à quel type de vision, de quel type de modification?
Un des exemples dont je parle dans mon texte, c'est le nombre de fonctionnaires qu'il y a à Québec. Le rapport McKinnon qui a été déposé en Alberta un peu plus tôt cette année comparait la taille des fonctions publiques de chaque grande province au pays. La taille des fonctions administratives.
Mmh, mmh.
Donc, pas pour les services aux citoyens, mais les fonctions administratives. Et pour la fonction administrative, le Québec a 43% plus d'employés administratifs par personne que toutes les autres provinces canadiennes. Je comprends qu'on a un peu plus de programmes, mais on n'a pas 43% plus de programmes.
Mm-hmm.
On n'a pas quelque chose pour justifier d'avoir 43% plus de fonctionnaires. Donc, c'est dans des endroits comme ça où il faut se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment pour notre argent? Et est-ce qu'on ne peut pas justement diminuer ça puis trouver un moyen d'arriver au même niveau que la moyenne canadienne?
Est-ce que vous croyez qu'on pourrait espérer un auto-examen des différentes agences gouvernementales pour essayer d'améliorer l'efficacité? Parce qu'on veut pas, par exemple, se retrouver avec un problème, par exemple, comme le système de paye Phoenix, qui était supposé générer des économies, mm-hmm. puis qui, en bout de ligne, a été un produit qui était complètement pas prêt, dont on a pesé sur le piton start, alors qu'il aurait fallu le laisser dans le laboratoire du gosseux de chez IBM, qui l'a mis au point il y a 4 ans, puis qui, finalement, il était pas prêt du tout. Il faut faire attention, c'est très délicat. Vous évoquez vous-même le vieillissement de la population, la précarité et la baisse de population et de travailleurs qui devront supporter tout ça. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait susciter un examen de performance de chacune des agences? Et si oui, comment?
Je pense qu'il y a moyen, effectivement, de susciter un examen de performance. Comme je disais, c'est ce qu'on a fait dans les années 90. On a demandé aux diverses agences, on a demandé aux divers syndicats, on a demandé aux groupes patronaux. Le gouvernement a demandé à plusieurs groupes de la société, a demandé à un panel d'experts, et ils ont dit, écoutez, voici notre situation, voici, on s'en va tout droit vers le mur présentement. Il faut qu'il y ait des coupes, mais on ne veut pas le faire n'importe comment, on ne veut pas dire que c'est 5% partout, sans se poser la question de si ce 5%-là est justifié ou non. Mm-hmm. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont passés en revue, ils ont passé chaque programme ligne par ligne, en disant, est-ce qu'on en a réellement pour notre argent avec ça? Et est-ce que c'est quelque chose que le gouvernement devrait faire? Et ça a résulté en des épargnes énormes et le remboursement de 100 milliards en dette au cours de la décennie qui a suivi. On a déjà le modèle, en fait, pour... On sait déjà quoi faire. On a déjà le modèle, on l'a déjà fait. Mm-hmm. Un autre palier de gouvernement. Ce que je propose, qu'on propose par rapport à ça, c'est de répéter l'objectif au niveau du provincial aussi.
Mais le contexte aussi est quand même très différent. Puis la première chose qui me vient en tête actuellement, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Je veux dire, on fait allusion inévitablement au fait que les baby boomers vont s'en aller à la retraite, vont vivre les enjeux de santé qui viennent avec, quelle liaison affreuse qui viennent avec. Et donc, on va se retrouver avec moins de travailleurs qui vont devoir supporter tout le poids qui nécessiteront ce vieillissement de la population. On ne parle, à l'époque à laquelle vous référez, on n'avait pas ce problème de pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que vous mm-hmm. joignez-vous votre voix à ceux qui voient comme l'ouverture à l'immigration pour augmenter justement, on a une pénurie de main-d'œuvre, on a besoin de travailleurs, on a besoin aussi des impôts que ces travailleurs-là paieront à même leur salaire?
C'est certain. Écoutez, je t'en charge un groupe de contribuables. Mon expertise n'est pas au niveau de l'immigration. Il y a des gens qui sont bien plus qualifiés que moi pour en parler. Donc, pour moi, c'est pas nécessairement la solution. Ça peut faire partie de la solution. Ça l'est pas nécessairement. Ce qu'il faut regarder présentement, c'est qu'on a un bon nombre de Québécois qui sont là, qui sont prêts à travailler. On a, par contre, certains programmes qui sont insoutenables. On a un niveau de dépenses qui est insoutenable et on a une croissance de dépenses qui est insoutenable. Je pense que, avant de regarder d'autres solutions, il faut d'abord s'assurer de remettre ce niveau de dépenses-là vers un niveau soutenable.
Mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'entendre notre entrevue tout à l'heure qui évoquait les problèmes liés à un employé de Hydro-Québec qui obtenait de l'argent pour octroyer des contrats ou favoriser l'obtention de contrats. Ce genre de problème-là, avez-vous une opinion sur ce qui se passe ici? Parce que Hydro-Québec, bien évidemment, c'est une entité autonome, mais c'est aussi une vache à lait économique pour le Québec. Est-ce que vous croyez mm-hmm. qu'il y a aussi un travail à faire dans une agence publique comme Hydro-Québec?
C'est sûr qu'il y a un travail à faire partout. Vous savez, Hydro-Québec, comme mentionné, est un moteur économique pour le Québec. Il rapporte énormément d'argent au gouvernement. À partir du moment où il y a du gaspillage au gouvernement ou à Hydro-Québec, c'est de l'argent qui ne peut pas être remis dans les poches des contribuables ou qui ne peut pas être réinvesti pour avoir les meilleurs services. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que dès qu'il y a des cas, dès qu'il y a des aberrations, justement comme le cas dont on se parlait avec cet employé-là du Hydro-Québec, c'est certain qu'il y a un ménage à faire. Je pense, par contre, que la majorité du ménage à faire n'est pas nécessairement et uniquement au niveau de la corruption, oui, effectivement, il y a quelque chose qu'il faut faire. Mais il y a une bonne partie du ménage qui est à faire, qui est au niveau du gaspillage.
Mm-hmm.
Comme je vous mentionnais, le fait qu'on ait 43% plus d'employés administratifs par personne, on ne parle pas de 1 ou 2%, on parle quand même d'une très, très grosse différence. Et c'est des employés qui sont très hautement rémunérés. Donc, ça finit par nous coûter très, très, très cher en tant que contribuables.
Est-ce que la Fédération des contribuables a une opinion à émettre sur les différentes tactiques d'évasion ou d'évitement fiscal?
C'est sûr et certain qu'on s'oppose à tout ce qui est évasion et évitement fiscal. On a des règles, on a des lois sur l'impôt en place, et toute personne devrait les respecter. Par contre, il y a une chose qu'il faut réaliser aussi, si on en a autant, c'est en bonne partie parce qu'on est la circonscription, la juridiction, excusez-moi, la plus taxée au pays, la plus taxée en Amérique du Nord.
C'est, mais c'est un projet de société. On est une social-démocratie un peu à l'image de la France. On a cette vision social-démocrate de l'État-providence. On est prêt à contribuer à la grande caisse et les investisseurs étrangers qui arrivent ici ont accès à des gens qui sont prêts à travailler pour eux, mais qui ont aussi un filet social fantastique qui amène certainement, en tout cas, une économie pour les entreprises, mais surtout une qualité de vie pour ses résidents. On ne voudrait surtout pas se retrouver avec une économie Western, comme on a aux États-Unis, où finalement, il faudrait surtout pas que tu tombes malade parce que t'es faite.
Non, effectivement. Puis écoutez, il faut pas nécessairement prendre les États-Unis comme modèle. Il faut faire notre propre modèle. C'est sûr qu'on peut s'inspirer d'ailleurs. Mais jusqu'à un certain point, trop d'impôts tue l'impôt. Et au Québec, les taux d'imposition qu'on a, on aime dire qu'on a un système qui est très progressiste avec des taux qui sont assez bas et qui montrent aussi progressivement. Mm-hmm. C'est pas exactement le cas. On a un système qui a les taux d'imposition les plus élevés au pays dès le premier taux combiné et qui fait juste continuer à monter après ça. Mm-hmm. On a de loin les impôts les plus élevés. Et d'ailleurs, j'ai fait allusion de mon taxe, un Québécois qui gagne 40 000 $ par année, paye 50 % plus d'impôts que ce qu'il paierait de l'autre côté de la rivière des Outaouais. À un moment donné, faut se poser la question, est-ce que cette personne-là a réellement 50 % plus de services que ce qu'il y aurait de l'autre bord de la rivière? Je pense que c'est pas le cas.
Ben, en tout cas, est-ce que dans vos analyses, dans vos recherches, parce que vous êtes certainement des gens qui fouillaient les chiffres, est-ce que, est-ce que l'économie au noir est quelque chose qui vous interpelle aussi?
C'est pas quelque chose qu'on évalue autant. On est encore une fois un groupe de contribuables à la base. Donc, c'est sûr que ce qu'on regarde, c'est davantage au niveau des politiques fiscales et des politiques budgétaires. Mm-hmm. C'est plus ça qui est notre expertise. L'autre chose, l'économie au noir est très difficile à chiffrer, justement parce que...
Ben, parce qu'elle est au noir.
Parce qu'elle rapporte vraiment dans son rapport d'impôt. Hein.
Exact. Bon, ben, écoutez,
c'est quelque chose qui est plus difficile à chiffrer, effectivement.
Effectivement, et c'est certainement, par contre, une des effets potentiels de ce trop gros fardeau d'impôts et de taxes sur les activités économiques légitimes. Ben, Renaud Brassard, merci beaucoup de votre intervention. Directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Vous écoutez Politiquement incorrect.
L'art est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect.
On parlait il y a quelques minutes avec les gens de la Fédération des Canadiennes des contribuables, mais on parlait d'évitement fiscal, d'économie au noir. Et justement, on a la chance d'avoir le commentaire aujourd'hui de Denise Bombardier. Bonjour, Mme Bombardier.
Bonjour.
Justement, on parle justement de ces tentatives d'évasion ou d'évitement fiscal qui vous préoccupent aussi.
Ça me préoccupe, mais en même temps, il faut être réaliste. D'abord, j'ai fait cette chronique. C'est difficile parce que la caisse de dépôt, il y a tout un côté technique là-dedans dans l'explication. Mais il est certain que la caisse de dépôt, c'est une institution publique et que les dirigeants qui en ont la responsabilité durant leur mandat, ils doivent répondre aux exigences du gouvernement et de la population. La population au Québec est certainement très sensible à l'évasion fiscale, plus que dans d'autres pays. Il faut bien le dire. Nous sommes, je dirais, dans la pointe des gens les plus
tatillons sur ça, bien sûr.
Presque tatillons, oui. Mais en même temps, la Caisse a un mandat, n'est-ce pas, d'être compétitive par rapport à d'autres organisations ou organismes ou institutions qui doivent aussi faire des profits. Et c'est là que le bât blesse. Moi, je pense que le nouveau président, M. Émond, et c'est ça que j'ai voulu dire dans mon article, je pense qu'il va apprendre qu'être un vice-président, je crois qu'il était vice-président, qu'un vice-président, ça n'est pas un président. Le président ne peut pas ne pas tenir compte du fait qu'il est le symbole de l'institution et qu'il fait de la politique. Parce que, donc, il ne peut pas dire ce qu'il dit dans son bureau avec ses collègues. Faire des nuances qui sont, on l'a bien vu tout de suite, hein, on a vu les partis d'opposition qui ont sauté là-dessus. Je pense pas que M. Émond croit que les paradis fiscaux, c'est une chose à valoriser. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui mettent des institutions qui mettent de l'argent qui font transiter par des paradis fiscaux, et ça n'est pas illégal. La seule chose, c'est que nous, on veut pas seulement que ça soit pas illégal, on veut que ça soit légitime de le faire. Et la population du Québec, elle est particulièrement sensible. Donc, il ne pourra plus, il a été gauche dans sa déclaration qu'il a faite, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est retrouvé en manchette, mais c'est certainement pas quelqu'un qui veut revenir en arrière puis qui pense qu'il faut être à la limite de la légalité pour faire entrer l'argent le bas de laine des Québécois pour le faire prospérer. Mais il est obligé de le faire prospérer.
Mais vous avez bien fait de soulever, Mme Bombardier, parce que c'est quand même perturbant de lire chez un homme de la haute finance qui s'occupe du bas de laine des Québécois que les terrains à juridiction à fiscalité réduite sont simplement utilisés comme des terrains neutres pour structurer des transactions internationales. Ça fait réagir quand même.
Oui, mais je pense que ce sont pas des gens de mots en général. Les gens de chiffres ne sont pas des gens de mots. Et ils manquent d'épithètes, autrement dit d'adjectifs pour qualifier les choses. Ils ont un vocabulaire qui est ce qu'on appelle la langue de bois, finalement. Un terrain neutre, c'est quoi, c'est un terrain neutre? Un terrain, d'abord, n'est jamais neutre parce qu'il appartient à quelqu'un. C'est pas à des privés. Bon, alors, je pense qu'il va vite apprendre sa leçon, et je ne pense pas que le nouveau président, que c'est un homme qui veut revenir en arrière, comme évidemment l'a dit Québec solidaire. Bon, ça fait partie, mais c'est sûr, parce que Québec solidaire, de toute façon, je ne sais pas ce qu'il ferait avec la Caisse de dépôt, eux. Parce que eux, ils sont contre le système capitaliste. Ben, on vit dans un système où la Caisse de dépôt, c'est dans une économie libérale que ça fonctionne, voyez-vous. Alors, quand les critiques nous viennent d'une sorte d'extrême-gauche qui est plus rêvée que réelle, ben, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ça frappe l'imagination des gens. Et c'est en ce sens-là que c'est démagogique de le faire. Et alors donc, je pense que c'est important. On veut que la Caisse de dépôt, tous les Québécois veulent que la Caisse de dépôt leur donne des rendements pas excellents, mais spectaculaires dans certaines circonstances. Eh bien, il faut savoir que nous ne sommes pas prêts et que le Québec et les citoyens québécois ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut, à donner des mandats pour que les rendements soient infiniment plus importants qu'ils ne le sont sur le marché, quoi.
Mais Mme Bombardier, c'est sûr que pour le commun des mortels, entendre cette approche de M. Aymon, sur le coup, ça donne une impression que, mais où est cet idéal, où est cette vision de l'argent bien placé, en toute légalité, la recherche d'opportunités de développement économique, alors que finalement, on est en train d'avaliser un peu une dimension, ben écoutez, hein, si on veut être dans la cour des grands, ben il faut accepter le chantage ou l'approche des grands d'ailleurs, d'autres que du Québec.
Oui, mais avec des arguments comme ça, quand on s'en sert dans le privé, regardez ce qu'a fait Lavalin. Lavalin savait que les bakchiches, hein, tels qu'ils les ont appliqués, que ça s'applique beaucoup dans ce monde-là, n'est-ce pas? Mais vous avez vu ce qui est arrivé à cause de ça. C'est sûr que ça fonctionne comme ça. Mais c'est sûr aussi qu'il y a un courant et que ce courant-là, il est en Occident. Donc, il n'est pas nécessairement dans les pays. Il y a des pays extrêmement riches, très petits, on les nommera pas, qui ont des milliards, qui contrôlent et qui, eux, n'ont aucune de ces contraintes-là. Même s'ils appartiennent aux Nations Unies puis tout ça. Mais vous savez qu'en Europe, c'est grâce à la Communauté économique européenne, c'est elle qui a policié le système, parce qu'il y avait des pays où ça fonctionnait complètement comme ça. Hein? Les paradis fiscaux, ça ne dérangeait pas. De toute façon, le Luxembourg, qu'est-ce que c'est? C'est un paradis fiscal. Eh bien, ils ont policié le système. C'est très important. C'est une des avancées. Parce que plus on est une société avancée et égalitaire, moins on peut accepter des violations à la fiscalité des pays. En fait, c'est pas illégal de mettre d'argent dans une banque, d'ailleurs, qui avec, on les voit, si vous êtes allé dans les paradis fiscaux, toutes les banques canadiennes sont là, ils ont toutes pignon sur rue. Vous pouvez mettre votre argent là. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas contourner, violer la loi fiscale du Canada, c'est-à-dire ne pas déclarer ce que vous avez si vous le rapatriez. Voyez-vous?
Exact.
Peut-être que vous allez avoir plus, un peu plus de mais il faut que vous déclariez vos, ce que vous touchez, c'est sûr.
Mais et comment avez-vous perçu l'intervention de Marois Risky, qui a jamais peur de brasser la cage, même au Parti libéral? Ses commentaires sont quand même avisés. Elle a une formation en la matière.
Elle a une formation, mais elle est d'abord une politicienne. Elle fait de la politique. Elle le sait. Les nuances que lui a mal expliqué. Hein? Le vocabulaire qu'il a pris, c'est certainement pas sa pensée. On n'aurait pas pu le nommer président s'il avait dit à ceux qui l'ont interrogé pour savoir s'il était le candidat idéal. Mais savez-vous, moi, je vais régler le problème. On va tout mettre ça, les milliards des bas de laine. Nous autres, on va spéculer avec ça, puis on va s'arranger pour que ça fasse un maximum de rendement. Il n'a pas dit ça. Elle le sait très bien. Mais elle fait de la politique. Et elle en fait de façon très agitée et très voyante. Et donc...
un coup de fraîcheur au Parti libéral, quoi.
C'est une des seules qui est voyante dans le Parti libéral. à l'heure actuelle. Alors, elle fait ça. Ça passe dans les médias, mais je ne suis pas sûre que ça se rend beaucoup plus loin.
Je peux vous dire, en tout cas, que je suis toujours admiratif de voir ces jeunes femmes issues, les millénarios ou les millénariales comme elles, prendre la place, brasser un peu et déranger. Puis j'imagine que vous aussi, vous qui avez passé votre vie à vous tenir debout, vous devez voir ça d'un bon œil. Et vous devez voir aussi d'un bon œil le jugement sur M. Weinstein hier aux États-Unis.
Moi, je pensais pas qu'on allait même l'accuser, savez-vous? Parce que quand j'ai vu les seuls... En fait, les seules femmes qui sont allées témoigner, je me suis dit, et qui racontaient, dont on savait après que ça a été mis en preuve, qu'elles avaient après eu des relations, en tout cas l'une d'entre elles, si j'ai bien compris, a eu des relations sexuelles après avec lui, comme si de rien n'était. Mmh. Eh bien, vous savez que l'animateur de Gomeshi, c'est exactement ce qui s'était passé. Hein, il les étranglait, et puis le lendemain, là, il y a celle qui était venue témoigner pour le dénoncer. Alors, on avait trouvé un courriel dans lequel elle disait « Je m'ennuie de tes belles mains ». Ses belles mains avaient servi à l'étrangler la veille parce que ça fait partie de ses fantasmes. Et lui, il s'en est sorti.
Mais je pense que dans le cas de Weinstein, il y a quand même, si on parle d'une utilisation d'un terme très, très commun, on peut vraiment parler d'abus de pouvoir. Cet homme menait l'industrie du cinéma et toute personne qui voulait...
Les plus grands dans le cinéma sont pas ça. Le président les présidents des très grandes compagnies de cinéma, ils sont pas là-dedans. Lui, il était dans un domaine spécial. Il faisait des films, un peu des films d'auteur. Et il avait ses entrées au Oscar. Mmh. Et c'était ça, son pouvoir. Et il y avait plein de gens, et en particulier plein de femmes, qui le fréquentaient pour ça. Mais lui, c'est un prédateur, mais vous avez vu, ça n'a pas été retenu. Parce que quand il y aura le procès dans l'Ouest, en Californie, si jamais on l'accusait aussi d'être un prédateur, là, ce serait la prison à vie. Hein? Mais de toute façon, disons que c'est une consolation parce que il a quand même été mis en accusation et j'ai relu ce matin justement l'entretien que son avocate là, on l'appelle la pitbull aux États-Unis, mm-hmm. qui a réussi à gagner des causes toujours sur ces questions-là. Mm-hmm. Et eh bien, je me suis dit, mon Dieu, elle va y arriver, mais elle y est pas arrivée. Et de toute façon, même si le tribunal ne l'avait pas condamné, ceux qui viennent après lui ne peuvent plus se comporter comme ça.
Oui.
Et que les freins ont été mis définitivement, mais la nature humaine étant ce qu'elle est, la complexité de la sexualité humaine étant ce qu'elle est, et les limites du droit à essayer de codifier les comportements sexuels étant, c'est très, très, très complexe, par exemple, la notion de consentement.
Mais hein? au niveau de la légalité actuellement, il y a quand même un énorme rattrapage à faire. Je lisais ce week-end le deux pages du Devoir avec les témoignages, entre autres, d'une jeune femme, Anna Quinn, qui a, entre autres, fait sa présentation sur un vidéo qui est bouleversant de voir cette jeune fille, et à quel point le système demeure une embûche, décourageant toute forme de plainte officielle qu'on n'ose déjà pas faire parce qu'on a un rapport intime avec une personne. Oui.
Mais moi, je ne sais pas si c'est parce que c'est à cause de ma génération, mais il est évident aussi qu'il y a un discours qu'il faut tenir, c'est que les femmes doivent être plus prudentes qu'elles ne le sont. Ça, indépendamment de tous les progrès qu'on a faits. Il faut quand même mettre les femmes en garde contre des prédateurs. Faut pas dire, toi, t'as droit à tout, c'est mon droit. T'as ton droit, mais s'il te met la main là où on sait, eh ben, t'as ton droit, il saute.
Ben, alors, effectivement, on est dans une période de transition. En tant que parent, on peut dire ça à nos filles, mais par contre, comme on le voit bien dans les campagnes publicitaires qui sont orchestrées actuellement par le gouvernement du Québec, il faut aussi s'assurer que les hommes cessent d'avoir ce genre de croire.
Mais la majorité des hommes n'a pas.
Bien sûr.
Ça ne s'adresse pas à la majorité, ça s'adresse à cette minorité qui ne vit que de leur pulsion sexuelle.
Exact.
Et savez-vous quoi? C'est un mystère quand on voit ce que ça leur coûte en termes de réputation, en termes aussi d'argent, et puis en termes de liberté, il faut se dire que vraiment, on dit, mais ils sont fous, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence, la pulsion sexuelle.
C'est ça. Quand on pense avec ses organes génitaux. Madame Bombardier, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour vos propos. On se parle la semaine prochaine, j'espère. Au revoir.
D'accord, au revoir.
Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine.
Politiquement incorrect.
Cube Radio. Autrement dit.
Émission chargée aujourd'hui à Politiquement Incorrect. On parle aujourd'hui maintenant avec Norman Lester, qui est blogueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Et sur le titre de son texte qu'il a mis en ligne, « Désinformation russe sur le coronavirus ». Monsieur Lester, bonjour. Parlez-moi plus de ça.
Ben écoutez, la nouvelle est sortie par l'agence France Presse il y a deux jours. L'AFP là, citait le département d'État américain qui dénonçait le fait que partout sur Internet, sur Twitter, Facebook, Instagram, il y avait des gens qui propageaient de fausses informations qui affirmaient que ce sont les Américains qui sont à l'origine des coronavirus, puis donc ils ont fait ça pour assurer leur supériorité sur la Chine. Bien sûr, c'est complètement faux, mais on le sait maintenant, les fausses nouvelles, ça marche justement à cause des réseaux sociaux, et donc les Américains mettaient en garde donc la communauté internationale et les pays contre cette nouvelle agression là. Écoutez, les Russes sont passés maîtres là dans les opérations, les cyberagressions, les cyberattaques et les opérations de désinformation sur les médias sociaux. Ben, on le sait, ils sont intervenus dans les élections américaines de 2016 en faveur de Trump. On a appris récemment par des témoignages des dirigeants des services de renseignement américains qui s'apprêtent à le faire pour l'élection de 2020, et qu'en plus de ça, en prime pour l'élection de 2020, il favorise aussi l'adversaire de Trump, le principal ou celui qu'ils espèrent le plus, qui gagne, Bernie Sanders. Mm-hmm. Pourquoi il favorise les deux comme ça? Parce qu'ils pensent que une confrontation entre ces deux hommes-là, Trump et Sanders, ça va porter la zizanie politique à son paroxysme aux États-Unis. Ils savent bien sûr que Sanders a très peu de chances de gagner contre Trump, mais que sa candidature va faire de la prochaine campagne présidentielle l'une des plus acrimonieuses de l'histoire des États-Unis.
Monsieur Essence, je vous arrête tout de suite parce que je me mets à la place d'un auditeur qui vous entend dire ça puis qui se dit, bon, OK, alors on peut imaginer qu'il y a un intérêt des Russes à affaiblir d'une quelconque manière les Américains, mais comment peuvent-ils accomplir cette basse mission? En donnant, par exemple, des avantages en disant que Joe Biden n'est pas bon puis que Bernie Sanders est meilleur, et à ce moment-là, ils font de la fausse nouvelle, les gens lisent ça et s'influencent le vote. Même chose du côté de Mme Clinton à l'époque, on répand des articles qui influencent l'opinion publique, c'est ça le principe?
C'est ça, et qui soulève les oppositions, les confrontations et puis l'agitation dans les sociétés qui sont visées. C'est exactement ce qu'ils ont fait lors de la campagne présidentielle de 2016 avec Trump. Ils ont lancé des fausses nouvelles contre Hillary Clinton. Ils ont essayé, bien sûr, de soulever les minorités, par exemple, hispaniques et noires aux États-Unis contre les Blancs. Écoutez, ils savent que pour eux, c'est extrêmement avantageux que la société américaine là soit divisée, mm-hmm. et comme elle l'est présentement, ça avantage les Russes, bien sûr, et aussi l'autre principal adversaire des États-Unis sur la planète, la Chine. Et donc, c'est pour ça. Puis, ils y réussissent très bien. Bien sûr, ils ont fait la même chose aussi. Ils interviennent comme ça contre en Allemagne, en France, on le sait, durant les campagnes électorales dans ces pays-là. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas une riposte agressive des pays occidentaux. Du côté américain, je comprends, parce que, bien sûr, Trump veut pas nuire à son ami Poutine, puis il est en opposition à ses services de renseignement, mais les pays européens ont des capacités informatiques importantes aussi, et des capacités de guerre cybernétique, et il semble, en tout cas, on n'a pas entendu de problèmes semblables là, du côté du parti politique de Poutine, du côté des oligarques qui l'entourent, ou du côté des services de renseignement russes. Mm-hmm. Et pourquoi les services de renseignement occidentaux, bien sûr, ils dénoncent, hein, l'Allemagne, la France a dénoncé l'ingérence russe, mais ils ne semblent pas faire rien. Ils ne semblent pas mener de contre-attaque, si vous voulez.
J'ai deux questions à vous poser, M. Lester. La première, est-ce que simplement ici, on c'est impossible, j'en reviens jamais, moi, à quel point le président américain n'est plus à la hauteur de ce qui m'apparaissait être un homme d'État. Quand j'étais petit, les États-Unis étaient une nation puissante qui avait sorti l'Europe de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, ils sont en train de me dire que, je le devine un peu, mais il faut le redire, là. Actuellement, le président Trump choisirait de laisser aller ou même d'encourager des médisances sur ses adversaires ou pour orienter quel sera son adversaire, mais en sachant fort bien qu'une fois réélu, il devra faire face à la bête qui l'aura nourri.
Ben, écoutez, pensez-y, lors de sa rencontre à Helsinki il y a 2 ans avec Poutine, il a dénoncé ses propres services secrets en disant que Poutine l'avait rassuré en disant qu'il n'était pas intervenu aux élections américaines. Et il a cru Poutine plutôt que ses services secrets. Et c'est encore la même chose la semaine dernière, lorsque l'ensemble des services de renseignement américains, les 17 services, ont déposé un rapport au Congrès pour dire que les Russes s'apprêtaient encore à intervenir, Trump s'est mis en colère et il a simplement éjecté le chef des services de renseignement américains pour le remplacer par un de ses hommes à lui qui n'avait aucune compétence sauf d'avoir été commentateur sur Fox News.
Ah ouais. Et la compétence de laisser aller cette ingérence soviétique.
Oui, mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est comment Poutine tient-il Donald Trump? Pourquoi Donald Trump a-t-il si peur de Poutine qu'ils n'ont jamais rien fait contre lui? Ça, c'est encore, si vous voulez, un secret là, que personne, semble-t-il, a réussi à découvrir. Et Dieu sait que tous les services de renseignement occidentaux et tous les grands médias d'information des États-Unis et d'Europe aussi cherchent à découvrir
l'Alliance.
Ouais. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de solution à cette énigme-là.
Et le peu d'appétit, donc, c'était ma deuxième question, le peu d'appétit de Donald Trump à mettre un terme, à protester contre ces ingérences-là, est-ce que c'est ça qui explique que toute la communauté internationale ne s'organise pas pour déplorer ou dénoncer le comportement des Russes ici?
Ben, tout le monde, beaucoup de gens le dénoncent, comme je vous dis. Les services de renseignement américains le dénoncent, le Congrès des États-Unis le dénonce, les pays européens ont dénoncé les ingérences russes dans leur système électoral. Mais, en tout cas, il semble, en tout cas, qu'il y a une certaine léthargie, là, où il n'y a pas eu de riposte, là, parce qu'on n'a pas appris tout à coup qu'en Russie, il y avait eu une fuite de documents ou qu'ils avaient réussi à perturber les opérations informatiques, soit des services secrets russes ou. Donc, on n'a jamais entendu parler d'attaque contre les Russes et pourtant, les Russes, eux autres, consacrent des sommes importantes et des ressources importantes de leur service de renseignement, justement, à semer la zizanie comme ça et à essayer aussi de s'introduire dans les services de sécurité occidentaux pour y voler des secrets. Nous-mêmes, ici, il y a des organisations canadiennes qui ont été la cible des Russes. Je pense à l'Agence mondiale antidopage qui est basée à Montréal. Comme vous savez, il y a l'avocat canadien Richard McLaren qui a fait une enquête et c'est l'Agence antidopage qui a dénoncé le fait que les services secrets russes étaient intervenus d'une façon massive en faveur des athlètes russes, notamment en leur donnant des produits médicaux pour augmenter leur capacité, tout ça. Et c'est l'Agence antidopage de Montréal qui avait fait ça. Et eux ont été la cible aussi d'attaques des services de sécurité russes. Et c'est une enquête sur laquelle la GRC se poursuit. Quand j'ai demandé à la GRC, au Centre de la sécurité des télécommunications, combien de fois, qui avait été visé au Canada, à quel endroit, quelle province, quelle ville, ils ont absolument pas voulu me donner aucune information là-dessus. Et moi, je trouve que c'est malheureux parce que si l'information circule à ce sujet-là, d'autres entreprises canadiennes engagées dans le cyberespace pourraient plus facilement prendre conscience de la menace russe et peut-être de mieux se protéger. Mais en tout cas, ça semble pas être l'approche ou l'attitude d'Ottawa. On sait qu'il y a une enquête de la gendarmerie royale sur les ingérences informatiques russes au Canada, mais on n'en sait pas plus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 2018, le FBI à Washington a annoncé et a dénoncé 7 membres des services de renseignement russes en disant, eux, ils ont participé à l'attaque contre l'agence antidopage et qu'il y avait sur place un responsable de la gendarmerie royale du Canada.
Eh bien, on dirait bien que Vladimir Poutine fait peur à tout le monde. Il va droit devant, s'impose partout et semble faire taire quiconque voudrait s'opposer à ce qu'il fait. Monsieur Lester, merci beaucoup pour vos textes et vos recherches toujours aussi fouillées. Merci beaucoup. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Et on va aller rejoindre notre collègue Jonathan Trudeau. Bonjour, Jonathan.
Salut Pierre, comment ça va?
Ben, ça va bien. J'imagine que tu vas suivre l'évolution de la crise ferroviaire. En fait, est-ce qu'on parle encore de crise ferroviaire ou on parle de crise reliée aux Wet'suwet'en et aux Autochtones?
Ben, je pense que c'est une crise nationale qui va au-delà en fait du réseau ferroviaire. C'est une crise économique, c'est une crise politique, c'est une crise sociale.
Ouais.
C'est vraiment multifacette et justement là on a un petit peu peur avec ce qui se passe à Kanawake et à Kanesetake. On va s'entretenir avec Pascal Quévillon, le maire d'Oka. J'ai comme l'impression que ça a été quand même assez bref dans le temps, là, mais le fait qu'hier des gens ont été barrés la route 344, là où il y avait eu le blocage otages, évidemment, pendant la crise d'Oka en juillet 90, ça vient raviver de vieilles blessures là, chez les gens d'Oka. Donc, ouais. On va parler avec le maire Quévillon, voir comment il voit ça de son point de vue.
Et pas si vieille que ça, parce que quand même, on se rappellera que le maire Quévillon et le chef Simon avaient eu une altercation au début de l'été. Alors, peut-être que leur manière de s'en être sorti, d'avoir réussi à trouver un terrain d'entente, c'est peut-être on devrait peut-être les mettre de l'avant au niveau du dialogue. Ils sont passés au-delà de leurs obstacles.
Oui, sauf que là, les enjeux sont tellement grands, il y a tellement de personnes d'impliquées. Moi, il y a un élément qui me dérange, Pierre, là, c'est l'espèce de double standard qui est mis de l'avant ou qui est évoqué, si on veut, par des gens des communautés, des Premières Nations, des communautés autochtones. Je disais dans un article du Devoir ce matin, il y a une personne interrogée sur place hier qui disait, bon, le Canada agit selon une façon coloniale qui consiste à utiliser la force pour obtenir ce qu'il veut. Elle dénonce ça. Ben, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous utilisez aussi la force pour obtenir ce que vous voulez. Vous ne représentez pas ce que la majorité des gens de votre communauté pensent ou des autres communautés. C'est que, tu sais, ils voudraient que le gouvernement, les autorités se gouvernent de telle ou telle façon.
Mais c'est parce qu'ils s'appuient.
Mais eux font pas le même jeu non plus.
Mais
là,
c'est parce qu'ils s'appuient sur une quête qu'on peut juger de légitime de la part des Wet'suwet'en. Et là, on dirait que la ligne est coupée. C'est-à-dire que, qu'en pensent les chefs héréditaires Wet'suwet'en du blocage, des blocages multiples qu'il y a actuellement au Québec et partout au Canada? C'est ça la grande question. Pour moi, là, c'est une affaire que je veux savoir, c'est où en est la coordination avec les Wet'suwet'en et leurs sympathisants.
Ben, je sais pas si tu avais vu l'entrevue vendredi dans le Globe and Mail d'une chef héréditaire. Ben, en tout cas, elle avait une responsabilité. Là, moi, j'appelais ça l'équivalent d'une sous-ministre héréditaire, Rita George. Qui avait donc des responsabilités en ce sens-là, mais qui était également impliquée au sein du conseil de bande, donc qui représente un peu les deux factions, Et elle disait que c'était honteux. Elle disait, si nos ancêtres nous voyaient, ils auraient l'impression que ces gens-là sont en train de salir notre nom, de salir notre mémoire, de salir notre réputation. Donc, c'est pas vrai. Là, je vois des gens là, qui sont là et qui disent « Ah, le gouvernement est contre les Wet'suwet'en. » Non, un instant, là. Ouais. Et, c'est divisé à l'intérieur même de ces mouvements.
Moi, j'aimerais beaucoup voir les figures marquantes de la commission réconciliation pour qu'ils puissent commenter la situation puis qu'ils appellent tout le monde au calme. Il me semble que ce serait la bonne chose à faire. On a passé tellement d'énergie, de temps et de bonne volonté dans tout ça. Il me semble qu'on devrait essayer de ramener ça à
la surface. La médiation, Pierre, je comprends pas qu'on n'en soit pas encore arrivé là. Est-ce qu'en coulisses, c'est évoqué dans des discussions qu'il y a pu avoir, notamment une discussion que Mark Miller avait eue avec des manifestants? Mais comment se fait-il qu'on soit pas capable d'en arriver à un point où on propose une médiation en échange d'une levée de blocus, que tout le monde,
on peut-tu baisse le ton un peu? Une médiation?
Dans
la même phrase, ça fait drôle, mais c'est
non, c'est ça. Mais ce que tu dis là, et ça évoque un des aspects de la problématique, c'est que ça prend deux personnes pour danser le tango, là. Donc, clairement, au travers l'incompétence, si on veut, les mauvais réflexes politiques que le gouvernement Trudeau a eu, on peut quand même pas leur reprocher de pas avoir voulu régler la situation, peut-être pas s'y prendre de la bonne façon, ils veulent régler, mais de l'autre côté, ils se font faire des gros doigts d'honneur. Là.
En tout cas...
Ça prend deux personnes pour danser aussi. Là.
Pauvre M. Trudeau, qui avait l'intention de se faire une belle campagne de relations publiques à l'international, là, il est en train de cueillir autre chose.
Oui, voilà.
Mais bonne émission, M. Trudeau.
Merci, bonne journée à toi.
Bye.